pourquoi des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Face à la nouvelle robe de sa compagne, la nouvelle chemise de son mari, la nouvelle coupe de sa meilleure amie ou le nouveau look de son fils adolescent, on se dit parfois qu'effectivement, tous les goûts sont dans la nature. En formulant cette sentence, sans même l'ombre du plus petit désappointement, on se sent généreux, ouvert et tolérant. Mais on n'en pense pas moins. Le jugement de goût jalonne notre quotidien sans qu'on y porte forcément attention. Après tout, chacun est libre de s'habiller comme il veut, de manger ce qu'il aime, de s'enticher de tel acteur ou chanteur, voire de trouver absolument jubilatoire la dernière exposition à la mode, ou de convenir que le dernier film de machin chose est un pur moment de bonheur, et le dernier livre de truc bidule qui se lit tout seul, intense, profond et rafraîchissant. Mais soyons francs, rien de plus exaspérant que de voir descendre en flèche une œuvre que l'on a adorée. Le critique émérite se verra immédiatement rangé au nombre des abrutis notoires dont il faut se garder. De même que la faute de goût, vestimentaire, capillaire ou les deux, récurrente chez votre vieil ami ou le cousin de province, nous laissera seul à l'entrée du restaurant, prétextant un coup de fil, dans l'espoir que les habitués ne m'assimilent pas à ce défilé de mauvais goût. Cela n'est pas bien grave, on s'en accommode. Et avec un peu de recul, nous savons bien que nous sommes toujours l'inculte ou le plouc de quelqu'un. C'est ainsi, et c'est très bien, car le ridicule, s'il ne tue pas, est également fort démocratique. L'affaire serait donc réglée. On ne discute pas des jugements esthétiques. Mais il faut avouer que c'est là se priver d'une source infinie de plaisir et de discussions animées. Nous serions donc écartelés entre le désir narcissique de faire valoir la sûreté de notre jugement et la nécessité du quant à soi pour garantir la chaleur et la convivialité de nos relations sociales et amicales. Toutefois, un glissement s'opère dès lors qu'on s'aperçoit que l'on tend nécessairement à fréquenter ceux qui partagent nos goûts. Logique, me direz-vous. Mais le risque n'est-il pas de tourner en rond et de s'engoncer dans un ensemble de valeurs stéréotypées car jamais remises en cause ? Alors qu'à l'inverse, le goût se forme par les rencontres étranges, les avis divergents, les disputes et brouilles légendaires entre tenants des anciens ou des modernes, de l'art contemporain ou classique, du conceptuel ou du figuratif, disciples de Bach ou de Mozart, fans des Rolling Stones ou des Beatles, chantres de Madonna ou adorateurs de Lady Gaga, vodka champagne ou whisky coca, sushi ou trip, mer ou montagne, Dali ou Picasso, une pièce ou bikini, string ou rien, la liste est longue et même infinie, je vous laisse la compléter. Pour en revenir à des considérations plus élevées, la question du beau a toujours occupé les plus grands esprits, les nôtres et ceux des anciens. Mais là aussi, difficile de nous y retrouver. Pour Platon et Hegel, le beau est l'essence des choses belles. La beauté est une idée pure et éternelle. Pour Kant, le beau concerne ce qui est désintéressé. À la différence de l'agréable, il exige l'universalité et doit donc être l'objet d'une satisfaction universelle, d'ordre esthétique et non logique. Enfin, selon Hume, Schopenhauer ou Nietzsche, l'étude de la beauté a pour but de nous rendre heureux. L'art nous arrache provisoirement à la douleur et à la souffrance. La beauté, et non l'œuvre d'art secondaire, embellit la vie en la civilisant. Voilà, je vous laisse faire votre marché en me pardonnant cette vue on ne peut plus cavalière. Mais quand bien même vous auriez lu et relu tous ces auteurs, et bien d'autres encore, imaginez votre premier rendez-vous avec ce qui pourrait devenir la femme ou l'homme de votre vie. Après une visite au Louvre, où vous vous êtes extasié devant la sérénité des peintures de Fra Angelico, après la transe des clairs-obscurs du Caravage, et en attendant la joie des couleurs pures de Poussin, vous ne recueillez de votre futur bien-aimé qu'une moue dubitative, qui se transforme en joie sans mélange dès lors qu'elle vous entraîne dans une galerie branchée pour s'extasier devant une machine à fabriquer des excréments et un troupeau de cochons tatoués. Un peu circonspect, vous finissez par vous attabler dans l'un de vos restaurants préférés, et là le drame. Alors que vous pensiez vous régaler en commençant par un os à moelle suivi d'une tête de veau sauce gribiche, accompagné pourquoi pas d'un plat de tripe, vous croisez le regard horrifié de votre ami qui s'insurge que la carte du restaurant ne comporte pas de menu végétarien. Que faire ? Si des goûts et des couleurs on ne discute pas, néanmoins ça aide. En guise de réconciliation, vous décidez de finir la soirée au cinéma. Mais entre Romer et Scorsese, le choix s'avère impossible. Vous décidez sagement, d'un commun accord, d'en rester là. Finalement, hormis dans les colloques savants bourrés de vieux académiciens assoupis, des goûts et des couleurs on ne discute pas. Soit il y a une impossibilité de dialoguer qui se teinte d'un léger mépris de part et d'autre, soit il y a adhésion et communion pour une même chose qui se fera d'ailleurs bien souvent dans le silence ou le « ça va sans dire ». Bref, de dialogue il n'y aura point, si ce n'est avec soi-même, dans la joie de se savoir sûr de son goût, au point de n'en jamais rien dévoiler aux autres qui risqueraient de m'en faire changer. Alors soyons modestes et restons philosophes.